Aujourd'hui, on lira au chapitre 1 d'Éphésiens, les versets 1 à 14. Éphésiens 1, les versets 1 à 14. Alors, c'est un texte extrêmement riche. Et puis, en une petite demi-heure, on va prendre quelques éléments et puis en effleurer d'autres. Et puis, voilà. Alors, Éphésiens au chapitre 1, les versets 1 à 14, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est les salutations. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors, voilà la lecture biblique. L'auteur, le destinataire, la date, le genre littéraire, c'est toujours intéressant de savoir si on a un texte plutôt narratif, plutôt apocalyptique ou plutôt poétique. L'épître aux Éphésiens a été écrite par l'apôtre Paul et lors de son premier emprisonnement à Rome. Et puis, Paul écrit au sujet des choses que Dieu a faites pour son peuple, pour ses enfants. Et c'est absolument extraordinaire tout ce que Dieu a fait pour nous. Et Dieu nous a bénis, il nous a puissamment bénis, et sa bénédiction, elle remonte pour Paul avant même que la terre soit créée. Son intention était là déjà de nous bénir. Et le fruit de cette bénédiction ressort de notre bouche par la louange. Et on retrouve la même idée chez l'apôtre Jean dans 1 Jean au chapitre 4, le verset 19. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Jean dit exactement la même chose que Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Et quand est-ce qu'il nous a aimés, Dieu? Eh bien, le texte répond avant la fondation du monde. Comment Dieu nous bénit-il ? Eh bien, Paul répond à cette question. Quelle est cette bénédiction de Dieu et comment Dieu nous bénit-il ? Eh bien, Paul développe son argumentaire en trois points. En décidant de nous sauver, au chapitre 1, on a dit que les versets 1 et 2, c'était les salutations. Moi, je suis, petite parenthèse, toujours frappé comment Paul salue les gens avec une telle affection, avec une telle intensité. J'aime beaucoup chez Paul tous ces noms qui n'apparaissent nulle part, mais dans la bouche de Paul, oui. Saluer un tel, des noms un peu particuliers, hein. Linus, Androcus, etc., des noms qui n'apparaissent nulle part dans la Bible, mais l'apôtre Paul les connaît et il les mentionne souvent dans ses salutations. À quel point cet apôtre débordait d'amour pour l'Église et pour les gens qui constituaient les Églises, et il les connaissait tous. Mais Paul, après les salutations du verset 1 et 2, et bien à partir du verset 3, il développe son argumentaire. Comment Dieu nous bénit-il ? Premièrement, en décidant de nous sauver, c'est les versets 3 à 6, en décidant de nous sauver, 3 à 6. Donc ce n'est pas d'abord nous qui décidons d'être sauvés, c'est Dieu lui-même qui décide de nous sauver. C'est l'ordre des choses tel que Paul les définit. Dieu décide de nous sauver. Les versets 3 à 6, et comment cela peut se réaliser ? Eh bien, en envoyant son Fils pour nous sauver, c'est les versets 7 à 12. Dieu décide de nous sauver, mais ça ne suffit pas. Nous sommes condamnés par notre péché, nous méritons la mort, nous sommes loin de Dieu. Pour que ce salut soit possible, Dieu décide d'envoyer son Fils. Et le Fils accepte de descendre, de quitter sa gloire et de venir sur cette terre. Il faut juste savoir qu'au sein de la Trinité, Dieu ne donne pas simplement l'ordre à Jésus en lui disant « maintenant, fiche le camp sur terre ». Non, les trois personnes de la Trinité sont égales. Le Fils est subordonné au Père de toute éternité, mais il y a une relation d'amour entre eux et la dernière chose qui pourrait exister entre les personnes de la Trinité, c'est de la manipulation, de la pression, c'est de l'instrumentalisation, ça on l'a dans les rapports humains, partout. Hein. On instrumentalise, on fait de la pression, on pousse. Non, Jésus accepte de plein gré et en toute conscience, et c'est son choix à Jésus, de quitter la gloire du Père et de venir mourir à notre place sur la croix. Il n'y a aucune contrainte. Et il le fait par amour pour nous. Parce que le Père et le Fils ne sont qu'un, et pourtant différents dans leur personne, mais ne font qu'un en nature, avec le Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus accepte de descendre sur la terre, et se faire cracher au visage, se faire flageller avec des couronnes d'épines sur le dos et sur la tête, et une humiliation et cracher au visage, le Fils de Dieu, vous vous rendez compte ? Il le fait par amour pour chacun d'entre nous. Donc voilà, Dieu décide de nous bénir en envoyant son Fils pour nous sauver. Et le Fils accepte de descendre sur la terre pour nous bénir parce qu'il nous aime profondément. Alors ça, c'est le deuxième point de l'argumentaire de Paul, les versets 7 à 12, on y reviendra. Mais tout ça, c'est fantastique. Mais encore faut-il que nos cœurs soient touchés et qu'à un moment donné, on réagisse à cet amour sacrificiel. Eh bien, Dieu envoie le Saint-Esprit pour nous communiquer le salut. Et ça, ce sont les deux derniers versets, les versets 13 à 14. Alors, on reprend le premier point, et ensuite le deuxième, et ensuite le troisième. Le premier, la volonté de Père de nous sauver, au chapitre 1, les versets 3 à 6. C'est lui qui nous a élus, choisis avant la fondation du monde, au verset 4. J'aimerais juste que vous vous rendiez compte que Dieu a décidé de nous sauver avant même que la chute ait eu lieu. Mais avant même que nous soyons nés, et avant même que Dieu ait jeté la première pierre de ce monde, puisqu'il est dit clairement, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul dans cette première lettre aux Éphésiens, qui dit que Dieu nous a choisis pour nous sauver avant la création du monde. Donc, mon salut, il dépend pas du jour de ma naissance, mais avant. Ça remonte à vraiment très loin. Hein. Alors, si vous êtes un créationniste pur et dur, ben, ça fait 7000 ans que Dieu vous a choisi. Si vous intégrez un petit peu d'évolutionnisme chrétien, hein, parce que ça existe aussi, hein, et que vous considérez la science, et que vous lisez Genèse 1 d'une façon littéraire ou littérale, il y a deux sortes de lectures possibles. Vous pouvez envisager qu'il y ait milliards d'années, hein. Je ne vais pas entrer dans ce débat parce que j'y suis à un débat il n'y a pas longtemps que j'ai donné. Ben, vous pouvez alors dans ce cas-là imaginer qu'il y a des milliards et des milliards d'années que Dieu vous a choisi. Déjà, il vous connaissait. C'est lui qui nous a élus, choisis avant la fondation du monde. Et au verset 5, dans son amour, il l'a fait parce qu'il nous a aimés avant que nous, nous l'aimions. Avant que nous, nous naissions, avant qu'aucun homme sur cette terre ne naisse, avant qu'il y ait les océans, les astres et les luminaires, Dieu nous a aimés et prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui l'a motivé, Dieu, à nous aimer avant la fondation du monde et à nous choisir et à nous élire et à faire de nous ses enfants? Ben, Paul le dit, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi est-ce que vous allez acheter une bonne glace au restaurant, hein, parce qu'il fait chaud? Ben, parce que ça vous plaît de le faire. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de nous sauver avant même la création du monde? Eh bien, parce que ça lui faisait plaisir de le faire. Parce qu'il aimait faire cela. Pas parce qu'on était bon, hein. Enfin, Dieu n'a rien trouvé de bon en Charles, hein. En se disant, oh, celui-là, à un moment donné, il sera tellement fantastique que je vais le sauver. Non, non. C'est uniquement selon le bon plaisir de sa volonté. Ça lui a plu. Alors, allons plus loin. Donc, si je dis que Dieu m'a choisi, il m'a aimé et a décidé de me sauver avant la fondation même du monde, je peux tout à fait dire que Dieu nous choisit avant la création et notre identité d'enfant aimé en Christ, c'est avant toute autre qualité. Spurgeon, hein, ce grand revivaliste, 1850, disait: Dieu m'a aimé, mais il reprend ce passage de Paul. Dieu m'a aimé avant la fondation du monde, sans savoir qui je serais, mais il le savait qui je serais, mais sans voir mes œuvres. Et heureusement qu'il l'a fait avant, parce que s'il l'avait fait après, ben, il ne m'aurait jamais sauvé en regardant mes œuvres. Et je parle de Spurgeon, qui était un immense prédicateur. Ça ne dépend pas de notre mérite, ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Ça dépend de l'amour de Dieu. Et cet amour, il est inimaginable et on ne peut pas le comprendre. Ça ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs. Ça dépend de son seul bon vouloir, comme Paul le dit. Alors, ton salut fait partie du plan éternel de Dieu. Alors, Dieu nous a choisis du milieu de la grande masse de l'humanité. Et son intention, Paul le dit, est de nous rendre saints et irrépréhensibles. Alors, cette question de grande masse, on retrouve chez Paul cette pensée, par exemple dans les Corinthiens au chapitre 2, le verset 7, avant les siècles, avant cette ère. Et dans 2 Timothée, Paul reprend le même argumentaire au chapitre 1, le verset 9. Et dans Tite au chapitre 1, le verset 2, avant les temps éternels, eh bien Dieu nous avait aimés, choisis et destinés à la vie éternelle et au sein de la grande masse de l'humanité. Jean, l'apôtre Jean, au chapitre 15, le verset 19. Son intention est de nous rendre saints et irrépréhensibles, et il nous a adoptés. Alors, tout ça, il l'a fait, encore une fois, selon le bon plaisir de sa volonté, et il a fait de nous des enfants adoptés. Alors, je trouve très intéressant aussi cette question d'adoption que Paul dit. Donc la bonté de Dieu est une bonté imméritée, un don gratuit, et évidemment on ne le mérite absolument pas. Délivré et devenu fils. Alors, cette question d'adoption, Paul en parle, adopté, et il n'en parle pas seulement aux Éphésiens, il en parle aussi dans ses épîtres à Timothée. Et puis Jean parle aussi et d'autres auteurs, je ne les cite pas tous, on n'a pas le temps. Alors pour nous, le fait d'être sorti d'un marché d'esclaves, ça nous parle peut-être pas tellement. Moi je suis allé au marché, j'étais en Valais mercredi passé, je suis allé à un petit marché d'un petit village, c'était sympathique, il y avait des caramels pour en acheter et puis les manger dans la seconde qui suit. Et ça s'arrête là. Mais vous savez qu'à l'époque, à Éphèse, eh bien, vous pouviez aller le lundi ou le mercredi, je ne sais pas, acheter un marché sur le stand des esclaves. Vous aviez des esclaves qui étaient là, puis vous pouviez choisir un esclave, et puis ces esclaves-là étaient tous destinés à la mort, et là, celui-là, il coûtait 100 francs. Et vous pouviez vous dire, j'ai une grande maison, il y a le jardin à faire, il y a le toit à repeindre, je vais prendre celui-là qui m'a l'air bien costaud, je l'achète 150 francs et puis je travaillerai chez moi. Ou alors, une femme de ménage, j'en ai marre de faire le repassage toute la journée. Là, il y a une dame qui semble bien repassée, je l'achète pour 80 euros et puis elle pourra travailler chez moi. Mais vous imaginez, l'esclavage, c'est la pire des choses. Vous avez tous vu le film de la case de l'oncle Tom. Alors certains esclaves étaient bien traités, mais c'est vraiment une extrêmement petite minorité. La plupart étaient exploités à tous les niveaux. Et ce n'étaient plus des êtres humains, mais uniquement des animaux. Voilà. Paul reprend cette image de l'esclavage. Vous étiez, vous, à cause du péché qu'il y a là au fond de votre cœur et qui est inscrit, vous étiez esclave du péché. Et cet esclavage vous conduisait à la mort. Vous étiez enchaîné et enchaîné au mal. Mais Dieu est venu sur ce marché d'esclaves, vous a choisi, a payé la rançon pour que vous soyez délivrés. Et a fait de vous des quoi? Des esclaves dans sa maison? Des fils et des filles à part entière dans sa maison à lui. Et il l'a fait pour vous aimer. Je trouve très fort cette image. Vous étiez esclaves du péché qui vous conduisait à la mort. Mais je suis venu vous retirer de ce marché d'esclaves pour vous introduire où? Dans la maison de Dieu et faire de vous des serviteurs, non, des enfants légitimes. Et des enfants qui héritent avec le Fils tout ce que le Fils a reçu. Hein? Eh bien, vous héritez avec lui. Et vous savez que Jésus n'a pas hérité de peu de choses. Il a hérité du ciel. Il a hérité du royaume de Dieu. Il a été couronné. Et Christ régnera pour l'éternité. son règne, on ne le voit pas encore, mais Christ a reçu toute autorité. Il est assis à la droite du Père et il régnera pour l'éternité avec nous. Lorsque nous serons enlevés, l'Église, lorsque nous serons aux noces de l'agneau, eh bien nous serons avec Christ et nous régnerons avec Christ pour l'éternité. Voilà, nous héritons de ce que Christ a hérité. Alors, passer d'une position d'esclave à une position où on hérite en Christ de tout ce que lui reçoit et déclarer enfant de Dieu, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Quelle nouvelle extraordinaire! Au moins, ça me réjouit. Hein. Alors, racheter et emmener hors. Si on reprend le texte, le fait d'être tiré hors de ce marché d'esclavage, le fait d'être tiré, c'est extrêmement fort si on reprend le grec. On ne va pas le faire maintenant, mais c'est comme si vous alliez sur un marché d'esclaves, vous payez pour avoir cet esclave, vous le prenez par le collet et vous le tirez hors. Parce qu'il y en a d'autres qui aimeraient maintenir cette personne dans l'esclavage. Mais vous êtes suffisamment fort pour tirer cette personne en dehors du marché où les esclaves sont vendus. Vous le tirez tellement fort et vous l'amenez jusque dans votre maison, dans votre palais. Ça, c'est ta maison. Et là, tu n'es plus esclave, tu es fils et tu hérites avec mon fils. Alors, emmener hors du marché, libérer des chaînes, passage de l'esclave au fils. Maintenant, l'œuvre de Christ en lui, tout cela s'est réalisé en lui, en Christ. Et on trouve en lui 8 fois. D'abord au verset 3, « En lui nous sommes bénis ». Et la plus grande des bénédictions que Christ nous accorde, c'est son salut. Ce n'est pas une belle voiture, ce n'est pas des belles vacances, ce n'est pas une belle maison, mais c'est son salut. En lui, en Christ, nous sommes élus ou choisis. Et avant la fondation du monde, au verset 4, en lui nous est donnée la gloire de la grâce de Dieu, au verset 6. La gloire de la grâce de Dieu, il n'y a plus sur le front une pancarte nommée esclave, mais gloire de la grâce de Dieu, fils et fille de Dieu. Et vous savez que Satan le voit, hein, quand il crible les élus de Dieu. Il y a une chose qui l'embête, c'est de voir sur le front « enfant de Dieu, adopté en Christ ». En lui nous est donnée la gloire de la grâce de Dieu. En lui nous avons la rédemption. Et vous savez que rédemption, c'est rachat. Mais le meilleur est à venir. Pour l'instant, on vit toujours sur une terre qui est souillée. Mais quand Christ reviendra enlever son Église, c'est là que nous réaliserons à quel point l'héritage que nous avons reçu en Christ est grand. Parce que pour l'instant, on tombe encore malade, mais bientôt on tombera plus malade. Pour l'instant, on a encore un corps qui de temps en temps nous fait souffrir. En tout cas, c'est tant de la chaleur, mais bientôt ça ne sera plus le cas. Le nouveau corps qui nous sera donné pour être en éternité avec Dieu, ce corps-là, il sera physique aussi. Mais il ne sera pas consommé ni par la maladie, ce qui est le cas maintenant. Il ne sera pas consommé par la mort, ce qui est le cas maintenant. Et puis, imaginez ce nouveau corps, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux où le péché sera définitivement enlevé. Voilà, toutes ces choses, ça fait partie de la rédemption, mais on attend encore avant de les vivre vraiment. Le meilleur est à venir. On est sauvé en espérance pour l'instant, nous dit le texte. En lui, nous avons la rédemption. En lui, tout sera réuni sous l'autorité de Dieu. Alors, dans un sens, c'est déjà le cas maintenant. Mais l'ennemi est encore agissant. Mais à un moment donné, nous savons que l'ennemi sera jeté dans l'étang de feu et qu'il ne pourra plus séduire les élus, plus embêter l'Église, plus provoquer les guerres, plus provoquer les viols et toutes ces choses-là, ça sera fini. Sous l'autorité sera réuni. C'est encore pas totalement le cas maintenant, même si Dieu règne en souverain sur toute la terre et que sa puissance est illimitée et que Satan en tant que créature ne peut pas faire autre chose que ce que Dieu lui permet de faire. Mais un jour, tout sera réuni sous l'autorité de Dieu. Et ce jour-là, croyez-moi, en liant Satan avec des chaînes de fer et en le jetant dans les temps de feu, c'est fini. Il n'aura plus la possibilité de pousser les gens à la révolte. En lui, vous avez été choisis comme héritage. Héritage de Dieu, quoi. Et donné à Christ en tant qu'épouse, l'Église. Et le dernier point que Paul dit, nous avons en lui été scellés du Saint-Esprit. Or, c'est quoi cette question d'être scellé? Au verset 14, scellé. Vous vous souvenez de ces lettres, on l'a appris à l'école, les Romains envoyaient une lettre, et bien on scellait, on cachetait, et vous ne pouvez pas l'ouvrir, c'est que le destinataire qui peut l'ouvrir. Quand vous avez reçu le Saint-Esprit, et bien vous avez été scellé, c'est-à-dire que le sceau du Saint-Esprit sur votre vie atteste que vous êtes enfant de Dieu. Et croyez-moi, le diable le voit. Et il enrage. Mince, celui-là, il y a le sceau de Dieu sur lui. Mais c'est bien plus que cela. Qu'est-ce que ce sceau, ce gage, cet héritage? Le sceau. Alors, excusez-moi cette image un petit peu rapide, mais c'est la colle. Ça vous est déjà arrivé de coller quelque chose? Mon frère qui fait des façades, hein, il colle du Sagex sur les murs, et puis il m'a dit, la colle qu'on utilise est si forte que si tu veux enlever ta plaque de Sagex du mur, tu as les crépis derrière et le mur qui part avec. Et j'ai essayé, et effectivement, impossible à enlever. Et c'est une colle qui est tellement forte que j'avais mes chaussures de montagne, eh bien, elles tiraient la langue. C'est-à-dire que la semelle s'était décollée à force d'aller dans des pierriers, dans des rivières, dans des trucs difficiles. Mais la semelle s'était décollée. J'avais pris une colle de cordonnier, elle continuait à se décoller. J'ai pris cette colle-là, je l'ai mis ensemble avec un serre-joint. Je peux marcher sur tous les chemins les plus pierreux et ça tient. Alors ça, c'est la colle. On est scellé à Dieu avec cette colle-là. Hein? Ça, c'est ce que Paul dit. Scellé, pensez que la colle, le scellement, ce qui nous scelle à Dieu, le Saint-Esprit qui te scelle à Dieu, c'est un truc qui se décolle à la moindre chose. Ben non. Enfin, cette colle-là, je ne l'achèterai pas. Celle de mon frère, je l'achète. On a été scellé à Dieu avec une colle où c'est juste pas possible. Si vous tirez le Sagex, vous démontez le mur, vous démontez Dieu et vous démontez sa parole. C'est ce que Paul dit en substance. Vous avez été scellé, noyé dans le cœur de Dieu et c'est impossible. C'est impossible de déceler cette vie qui a été rattachée à Dieu par le Christ. Enfin, on n'a pas le temps, il est 10, je vais m'arrêter. Mais c'est clairement ce que Paul veut dire. En reprenant le grec, les mots sont extrêmement forts sur ce plan-là. Il n'y a pas à discuter. Alors, évidemment que pour Paul, c'est tellement fort que cette argumentation, il la développe pas seulement chez les Éphésiens, mais aussi chez les Corinthiens dans ses lettres. Et chez les Romains. Et également, il en parle à Timothée dans ses lettres. Ça brûle trop chez Paul. Ce n'est pas le genre de message qu'il arrive à donner à qu'une seule église, puis tant pis pour les autres. Il va répéter sous une forme encore plus imagée ces mêmes choses, comme je l'ai dit, à d'autres églises. Mais ce n'est pas le seul. Vous prenez l'apôtre Jean, je trouve assez extraordinaire. Nul ne pourra me ravir de la main de Dieu. Et les noms que Dieu a inscrits sur son livre de vie, ce livre de vie, Jean dit qu'aucun des noms ne sera enlevé. Autrement dit, Dieu n'a pas une gomme où il enlèverait quand ça lui chante, où il remettrait. Voilà, oh là, il a fait trop de bêtises, j'enlève son nom. Voilà, ça va de nouveau bien, je le remets. Mais Dieu n'a pas de gomme, il a un livre avec le nom de ceux qui lui appartiennent. Ce livre a été écrit pour Jean, avant même la fondation du monde, ça reprend la même idée. Et ce livre sera ouvert, et seul Jésus pourra en lire les noms. Jean reprend exactement la même argumentation, et dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 22, les versets 3 à 5, et à plusieurs reprises. Et Paul, dans son épître aux Philippiens, bon, voilà, c'est la parole de Dieu, on n'invente rien. En lui, en Christ, tout cela est possible. L'envoi du Saint-Esprit pour nous communiquer le salut. Le Saint-Esprit dans notre cœur dit « Abba, Père ». Le Saint-Esprit est le sceau et le gage de notre héritage, on en a parlé. Le Saint-Esprit est l'agent de notre salut. Il est aussi le communicateur des dons de Dieu. Il est encore celui qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et conclusion, Dieu nous a choisis afin que nous soyons ses enfants pleinement aimés et intégrés à son dessein. Toutes les bénédictions viennent de lui et pas de nos mérites. Heureusement. Sinon, on ne serait pas tellement béni, quoi. Notre réalité est fondée sur l'œuvre de Jésus et pas sur nos performances. Vous savez, moi, j'ai quand même des fois un peu souffert de ces chrétiens qui disaient « Ah ben moi, je prie 8 heures par jour, alors que moi, quand j'étais apprenti, il fallait se lever le matin, j'arrivais à prier 5 minutes avant d'aller au boulot. » Mais c'est très bien de prier, mais notre réalité est fondée sur l'œuvre de Jésus, pas sur notre performance. Bon, ben j'espère que ce petit survol du premier chapitre d'Éphésiens, qui n'est pas évident, parce que là on a un pavé de théologie, il nous faudrait 5 heures, une journée, pour aller prendre tous les petits détails, mais je dirais une semaine. Là, on pourrait baigner dans ce premier chapitre. On a passé une demi-heure. J'espère que ça voudra donner l'eau à la bouche pour le relire et puis pour aller plus loin. Un bon programme pour cet été. Que Dieu vous garde et vous bénisse.